Puis de vous retrouver Hugo Lanoë pour le rendez-vous d'Haïti et des Amériques.
Bonjour Thomas Schnell, bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de ces 20 prochaines minutes, l'urgence humanitaire s'accentue considérablement au Venezuela, précisément pour les personnes qui vivent avec le virus du sida. Plus de la moitié des médicaments antirétroviraux ne sont plus accessibles et l'on estime à 24% l'augmentation des cas de VIH en 6 ans. C'est le dossier Amérique de notre correspondant à Caracas, Julien Gonzalez. À la une de la revue de presse des Amériques, les pro-avortements argentins prêts à faire des concessions pour éviter l'échec du projet de loi au Sénat. Et puis avant de retrouver l'actualité des Caraïbes avec nos confrères de la première, nous parlerons littérature haïtienne, de l'héritage du fondateur du Parti communiste et écrivain haïtien, Jacques Roumain. Bienvenue à tous. À l'occasion de la 22e conférence internationale du sida qui s'est tenue cette semaine à Amsterdam, focus aujourd'hui à ce propos sur la situation au Venezuela avec ce rapport accablant publié par l'OPS, l'Organisation Panaméricaine de la Santé, estime à 24% l'augmentation des personnes infectées par le VIH entre 2010 et 2016. Et ce n'est pas tout. 15 des médicaments achetés par le gouvernement sur les 25 antirétroviraux existants ne sont plus disponibles depuis plus de 9 mois. Difficile cependant d'avoir un chiffre exact du nombre de patients porteurs du VIH au Venezuela, mais une chose est sûre, l'OPS pointe du doigt le ministre de la Santé dans son incapacité à traiter la majorité des patients, une situation très alarmante qui inquiète médecins, associations et ONG. Notre correspondant au Venezuela, Julien Gonzalez, nous en dit plus.
Johnny Hernandez est porteur du VIH depuis 32 ans. Patient de l'hôpital Los Magallanes de Catia, à l'ouest de Caracas, ce retraité ne reçoit plus son traitement antirétroviral complet depuis plus de 9 mois. Il redoute un développement de sa maladie, mais aussi le risque d'une maladie opportuniste.
On a tenu mieux de mourir.
J'ai peur de mourir. Je me lève avec la peur et je me couche avec la peur. Cela fait 3 ans et demi que je n'ai pas fait mes examens du taux de cellules CD4 et de la charge virale pour savoir comment se comporte le virus dans mon corps, parce qu'il n'y a pas de matériel médical, pas de réactif. Je fais tout ce que je peux pour prendre soin de moi. Je ne sors quasiment plus parce que j'ai peur de contracter une infection respiratoire ou une maladie opportuniste. J'ai pensé à quitter le pays, mais je ne peux pas. Je n'en ai pas les moyens. Cela fait 32 ans que je porte le VIH et je cours le risque de mourir aujourd'hui à cause de ces misérables qui nous gouvernent. Quelle tristesse.
Une situation très critique que dénonce le docteur Mario Comenia, médecin spécialiste des maladies infectieuses de l'hôpital Vargas de Caracas. À l'heure actuelle, plus de 70% des patients ne disposent pas de médicaments antirétroviraux ou disposent d'un traitement très largement incomplet, selon ce médecin, qui s'inquiète du risque de la propagation de l'épidémie et d'une mutation possible du virus.
Sans aucun doute, il y a une vraie crise jamais vue jusque-là dans l'histoire du VIH au Venezuela. Cela fait de très nombreuses années que je soigne des patients porteurs du VIH et c'est comme si nous étions revenus au même niveau qu'au début, voire pire. Au début, les patients mouraient parce qu'il n'existait pas de traitement au Venezuela comme dans le reste du monde. Aujourd'hui, c'est pire parce que les patients du VIH meurent au Venezuela parce qu'il n'y a pas de médicaments dans le pays, alors qu'il y en a dans le reste du monde. Cela génère une grande impuissance quand on est médecin.
Une maladie dont les cas augmentent chez les hommes, mais aussi beaucoup chez les femmes. Parmi les nouveaux cas diagnostiqués entre 2014 et 2016, pour 2 hommes porteurs du VIH, une femme était concernée. Angela Delgado, elle, a été diagnostiquée en 1995. Elle raconte son calvaire, tant sur le plan physique qu'émotionnel.
Cela fait 6 mois que je n'ai plus mon traitement antirétroviral. Chaque jour qui passe, je me sens affaiblie. Les femmes porteuses du VIH au Venezuela sont très discriminées et je l'ai vu en personne. Je n'ai pas de travail. En 2004, je travaillais dans une boucherie et quand les patrons ont su que j'étais porteuse du VIH, ils m'ont virée. Et dans mon quartier pauvre, on dit des femmes comme moi que nous sommes des prostituées. Et ce n'est pas vrai, je suis une femme au foyer. Mon époux a eu des relations sexuelles avec d'autres femmes et il a apporté le virus à la maison.
Des patients comme Johnny et Angela qui n'ont plus de traitement depuis des mois et qui n'ont pas pu obtenir un des 5000 flacons d'antirétroviraux donnés par l'Organisation Panaméricaine de la Santé fin juin dernier. Ils sont une majorité. Feliciano Reina, qui préside une ONG de défense des droits des patients porteurs du VIH, pointe l'entière responsabilité de l'État dans la situation actuelle.
Il y a clairement une urgence humanitaire au Venezuela. Nous menons tous nos efforts pour que l'ensemble
l'ensemble des patients porteurs du VIH puissent avoir accès à leur traitement en quantité suffisante et tous les jours. Mais si le gouvernement n'admet pas la gravité de la situation et n'ouvre pas la porte à la coopération internationale, alors aucun effort comme celui de l'Organisation panaméricaine de la santé ne suffira à éviter davantage de pertes de vie et d'autres maux irréparables que nous vivons tous les jours.
Une crise du secteur de la santé due aux sanctions économiques selon le président Nicolas Maduro, qui a cependant annoncé avoir destiné 83 millions d'euros à l'achat de médicaments pour les patients avec une greffe, pour les patients atteints de cancer et pour les patients porteurs du VIH, sans pour autant préciser quand ces médicaments arriveront ni pour combien de temps. Julien Gonzalez, Caracas, RFI.
La revue de presse des Amériques, c'est avec Sarah Cozzolino. Bonjour Sarah.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
En Argentine, le débat sur l'avortement fait toujours la une de l'actualité. Désormais, les pro-avortements sont prêts à faire des concessions pour éviter l'échec du projet de loi au Sénat.
Oui, leur tentative de compromis fait les gros titres de Clarín et La Nación. L'inflexibilité des Verts a volé en éclats, commente Clarín. Les Verts, ce sont les pro-avortements qui ont choisi cette couleur de ralliement à la cause en opposition au bleu ciel, les anti-avortements. À deux semaines de l'examen du projet de loi au Sénat, les Verts ont calculé, ils risquent de perdre s'ils ne parviennent pas à convaincre les 10 sénateurs indécis.
Alors sur quoi sont-ils prêts à céder ?
Eh bien, sur 4 points principaux, la limitation dans le temps du droit de recours à l'avortement, réduite à 12 semaines au lieu de 14, l'objection de conscience étendue aux cliniques privées, les sanctions pour les médecins qui refusent de pratiquer l'avortement, et enfin le financement, avec la création d'un budget propre pour les hôpitaux publics. Ce compromis porte le nom d'option Cordoba parce qu'il est soutenu par des sénateurs originaires de cette ville du Nord argentin. Une nécessité impérieuse pour sauver la loi, selon l'un d'eux interviewé par La Nation. Mais même si ces modifications sont approuvées par les sénateurs, le texte devra de nouveau être voté par les députés. Le débat est donc loin d'être terminé.
Un autre thème mobilise les Argentins en ce moment, Sarah. Il s'agit d'un décret présidentiel pour militariser la sécurité intérieure.
Oui, une photo fait la une du quotidien Página 12. Une foule d'Argentins rassemblés devant le ministère de la Défense sous la pluie, c'était hier. Ils étaient une centaine de milliers selon le journal qui titre « Il compte imposer la peur » en parlant du gouvernement argentin. Des défenseurs des droits de l'homme, des partis politiques, des syndicats et des mouvements sociaux se sont retrouvés pour manifester contre une décision unilatérale et improvisée selon Página 12. Le président argentin Mauricio Macri a annoncé que l'armée serait désormais habilitée à intervenir sur des questions de sécurité intérieure, notamment dans les opérations de surveillance frontalière.
Mais pour beaucoup d'Argentins, l'armée est synonyme de répression.
Oui, les Argentins ont en mémoire le coup d'état militaire de 1976 et la dictature imposée jusqu'en 1983, avec les meurtres de plusieurs dizaines de milliers d'opposants. Et le journal conclut, l'avantage des dictatures, c'est qu'elles divisaient la population en deux camps très clairs, les conservateurs autoritaires et les courants démocratiques et populaires. Avec ce décret, Macri trace à nouveau cette ligne.
Direction les États-Unis à présent, la presse américaine commente la brutale chute de Facebook en bourse hier, qui a perdu 119 milliards de dollars à Wall Street.
Comment des années de controverses sur la vie privée ont fini par rattraper Facebook, titre le Washington Post, qui revient sur les derniers mois de tourmente du réseau social. Le journal donne la parole à un avocat en droit de la vie privée qui parle d'un avertissement que les marchés donnent à Mark Zuckerberg. Pour sa part, le Boston Globe évoque le jour du jugement dernier pour Facebook, mais selon le quotidien, M. Zuckerberg peut perdre 17 milliards de dollars. Ça n'est, je cite, pas grand-chose pour lui.
Sur un tout autre registre, le Los Angeles Times publie une lettre d'un prisonnier de Guantanamo et cette lettre est très émouvante.
Il s'appelle Ahmed Rabbani, il est chauffeur de taxi à Karachi au Pakistan. Avant d'être arrêté, torturé et vendu par un général pakistanais à la CIA en 2002. Depuis 14 ans, il n'a toujours pas été jugé et il raconte comment le monde l'a oublié, ce sont ses mots. Lui clame son innocence, j'ai été pris pour un extrémiste, explique-t-il. Ahmed Rabbani a fait plusieurs grèves de la faim pour protester contre son emprisonnement, mais désormais ce n'est plus par volonté qu'il ne mange plus. Il a des problèmes d'estomac et soupçonne les détecteurs de métaux qu'on lui introduit dans le corps quotidiennement d'en être responsable. « Je disparais progressivement », écrit-il, « je pèse désormais 43 kilos ».
Et pour finir, Sarah, nous allons au Nicaragua où les journaux commémorent le 100e jour d'un conflit sans précédent. Plusieurs chiffres à la une de la prensa.
448 morts en 100 jours de manifestation. Le quotidien proche de l'opposition publie une infographie avec des chiffres de l'Association nicaraguayenne pour les droits de l'homme. 383 civils, 40 paramilitaires, 24 policiers et un membre de l'armée ont été tués au cours du conflit. Pour sa part, El Nuevo Diario revient en images sur les commémorations des 100 jours de lutte. On y voit des photos de traces de pas aux couleurs du drapeau nicaraguayen, bleu ciel et blanc, et des messages des manifestants comme celui-ci. 100 jours de manifestation contre le lâche qui porte un fusil. Le lâche dont il parle, c'est, vous l'aurez compris, le président Daniel Ortega.
Merci Sarah Cozzolino, la revue de presse des Amériques était donc signée par vous-même, Sarah Cozzolino. Merci bien.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
On parle littérature à présent. Jacques Roumain est l'un des grands noms de la littérature haïtienne du XXe siècle. Né en 1907, il meurt à l'âge de 37 ans, en 1944. Non sans avoir marqué les lettres haïtiennes par sa modernité esthétique et sa vision sociale progressiste. Le nom de Roumain reste associé à son roman « Gouverneur de la Rosée », à mi-chemin entre roman d'amour et récit paysan. Ses œuvres complètes que les éditions du CNRS viennent de publier rappellent que l'héritage de ce grand homme de lettres caribéen n'est pas réductible à un seul roman. L'héritage littéraire de Jacques Roumain, c'est un dossier préparé par Tirthankar Chanda de la rédaction internet d'RFI.
C'est un ouvrage dense de 1600 pages, rassemblant en un volume unique l'ensemble des écrits de l'écrivain haïtien Jacques Roumain. Il est publié aux éditions du CNRS dans la collection Planète Libre, consacrée aux auteurs francophones. Jacques Roumain fut à la fois romancier, poète, ethnologue, philosophe, homme politique et journaliste. Un homme à multiples facettes, comme le raconte Yves Chemla, coordinateur de ce volume des œuvres complètes.
C'est un écrivain dont on connaît essentiellement à l'étranger un roman très célèbre, Gouverneur de la Rosée. Mais c'est un être multiface, puisqu'il a été journaliste, homme politique, ethnologue. On dit multiface, mais il y a une très forte unité dans la mesure où les projets qu'il a accomplis sont tous mis en perspective par un humanisme qu'il conduit sans défaillance, jamais, toute sa vie.
Pourquoi Jacques Roumain, selon Yves Chemla, c'est parce qu'il constitue un tournant dans les lettres haïtiennes.
Pourquoi Jacques Roumain? D'abord parce que la littérature haïtienne est une littérature d'expression française majeure. Et puis, dans ce contexte, Jacques Roumain a été le premier écrivain moderne. C'est quelqu'un qui a très vite compris que l'enjeu, c'était pas seulement de briller en Haïti, mais de faire partie de réseaux d'écrivains internationaux. Donc lui a très vite compris ça.
Jacques Roumain est né en 1907 dans un milieu aisé de Port-au-Prince. C'est en Europe où il est envoyé au terme de ses études secondaires pour parfaire sa formation que le jeune homme s'initie aux grandes littératures occidentales et aux langues d'Europe. D'ailleurs, une partie de son œuvre littéraire est composée de traductions de textes cubains et allemands. L'écrivain a profondément marqué son époque, écrit le poète haïtien René de Pestre, qu'il avait rencontré en 1943. Aujourd'hui encore, ce dernier se rappelle comment Roumain mit le feu aux poudres de son imagination en lui parlant de Faulkner et de Joyce, de Malraux et de Kafka, d'Hemingway et de Proust, de Mayakovsky et de Lorca. La poésie occupe une place importante dans l'œuvre fulgurante de Jacques Roumain, mort jeune en 1944, à l'âge de 37 ans.
Le poète est méconnu. On parle de lui surtout comme auteur de Gouverneur de la Rosée. Il a écrit qu'un seul recueil de poèmes, Bois d'ébène. C'est un livre remarquable. C'est l'un des peut-être plus grands poètes de la décolonisation. Et un grand poète qu'on peut comparer, quant à son empereur poétique, qu'on peut comparer à Mayakovsky. Il est profondément original dans sa poésie.
Ses œuvres complètes font aussi une large place à la prose romanesque de l'écrivain, notamment à ses romans « La montagne ensorcelée » et surtout à « Gouverneur de la Rosée ». Qualifié de récit paysan, ce second roman raconte la vie et la mort dans le Haïti profond, au sein d'une paysannerie confrontée aux intempéries de la nature et aux injustices politiques. Sans tomber dans l'écueil de la narration ethnologique, avance Yves Chemla, Roumain réussit à mettre en scène des êtres de chair et de sang auxquels le lecteur peut s'identifier. Le dernier mot revient à René de Pestre, qui n'a pas oublié le choc que fut pour lui la découverte de Gouverneur de la Rosée en 1945.
C'est un livre posthume. Nous l'avons lu avec passion. C'est un livre qui a fait date dans l'histoire de la littérature haïtienne du fait de l'originalité de son style. C'est le seul peut-être à avoir réalisé cette symbiose entre la langue française et le créole. C'est un coup de maître.
Les œuvres complètes de Jacques Roumain viennent de paraître aux éditions CNRS.
L'héritage littéraire de l'écrivain haïtien Jacques Roumain, c'était un dossier signé Tirthankar Chanda.
Le journal de l'Outre-mer.
L'actualité des Caraïbes, c'est avec Maxime Bossonnet. Bonjour Maxime.
Bonjour Hugo.
Cap sur la Martinique où 8 agriculteurs et éleveurs ont reçu hier un nouveau label, le Zéro Chlordécone.
Et oui, ce sont des pionniers en la matière. Ils ont inauguré ce jeudi le tout premier label qui certifie la non-utilisation du pesticide. Pour rappel, le chlordécone était un pesticide utilisé dans les bananeraies aux Antilles dans les années 70 à 90, alors qu'il était interdit ailleurs dans le monde. Il serait à l'origine de nombreux cancers dans la région. Le projet de ce label a été lancé en avril dernier par le Parc naturel de la Martinique. Les agriculteurs doivent respecter un cahier des charges strict. Jonathan Louis Sidney, directeur du développement local du parc naturel, a porté ce projet.
Nous avons rencontré un certain nombre de contraintes, mais nous avons vraiment mis en place une démarche de concertation. Donc en 3 mois, une quinzaine de réunions techniques avec des institutions, que ce soit au niveau de l'État, des organisations professionnelles. Et à partir de cela, nous avons pu développer et rédiger un certain nombre d'outils, tels que le cahier d'échange, la charte zéro chlordécone, et ainsi finaliser au niveau de l'auditeur les grilles d'audit, qui est l'outil qui permet de déterminer ou pas les agriculteurs qui peuvent être labellisés. Nous avons une surface agricole utile de 25 000 hectares. Sous les 25 000, il y a à peu près 10 000 qui sont contaminés au chlordécone. Donc c'est 30% des parcelles qui sont contaminées au chlordécone. On sait qu'il y a une véritable marge et qu'aujourd'hui, les agriculteurs qui sont déjà sur certaines spéculations peuvent se rapprocher du parc, faire acte de candidature et obtenir ce label.
Des propos recueillis par Denis Anne Louvet pour Martinique la Première et plus d'une centaine de professionnels se sont déjà inscrits pour réclamer ce label. Toujours en Martinique, les préparatifs vont bon train aux Anses d'Arlet à l'approche de la Mercury Beach. 4000 personnes sont attendues dans la commune qui accueillera demain cette immense fête nautique dans son bourg, puis après-demain sur la plage de Grand Anse. Entre 450 et 600 bateaux sont attendus sur les plans d'eau, ce qui a de quoi préoccuper les riverains. Quelques réactions au micro de Ronan Bonnec.
C'est pas la manif qui pose problème. C'est le lieu en question et le manque d'information des organisateurs qui, moi, m'ont pris un peu de haut quand on leur a parlé. Il y a un gros manque de communication, notamment au niveau des résidents, des gens qui habitent dans le coin, pour qu'on puisse accéder tranquillement, qu'on n'ait pas à montrer pas de blanche en permanence chez nous, quoi. Donc on nous a bien fait comprendre qu'en gros, si on pouvait éviter de sortir de chez nous, c'est bien.
Franchement, je suis venue à l'information moi-même, en allant sur Internet, en allant à la mairie, en essayant de savoir comment on allait faire pour circuler.
J'allais y chercher une petite dame qui est face à la colonne de trucs qu'ils vont mettre là. Elle m'a dit, moi je ne sais pas comment je vais faire. Elle a plus de 90 ans.
En Guyane, une mission pour relever d'éventuels manquements dans le dossier Montagne d'Or va être mise en place. C'est l'annonce qui a été faite ce jeudi par Sébastien Lecornu au collectif Hors de Question, opposé à ce projet. Cette mission sera en Guyane au mois d'août et a promis le secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire qui entame son dernier jour de visite. Cette inspection devra mettre en avant ce qui ne va pas dans ce projet de mine d'or très controversé. C'est la fin de ce journal. Bonne journée à tous et bon week-end.
Merci Maxime Bossonnet. Très bon week-end à vous également. C'est la fin de votre rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Mise en onde aux vidéos des Souza. Merci à lui, merci à vous pour votre fidélité à la Radio du Monde. Et on se quitte en musique avec un producteur argentin dans la playlist du mois d'RFI. Pedro Canale, plus connu sous son nom de scène, Chanchavia Circuito. Et on l'écoute avec le titre Lialo.